Nous avons tous besoin dans notre vie de quelqu'un sur qui compter dans les moments forts, de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui nous connaît bien, quelqu'un qui nous accepte tel que nous sommes, quelqu'un qui veut toujours notre bien, un bras droit en fait. Dans l'épisode du jour, nous allons converser au sujet d'un des meilleurs bras droits mentionnés dans ton Coran. J'ai nommé notre prophète Haroun alayhi salam. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute.
بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Il, Moussa, dit: Rabbi, ouvre-moi ma poitrine et facilite-moi ma mission. Aide-nous un nœud sur ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Et assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère. Accrois par lui ma force et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup, afin que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Il, Allah, dit, ta demande est exaucée, ô Moussa. Surat Taha, ayah 24 à 36. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis très contente de te retrouver pour un épisode que j'ai nommé « Ces hommes », le prophète Haroun, alayhi salam, un bras droit dans son excellence. Donc, on a déjà eu des épisodes par le passé où justement ça commençait, donc le titre commençait par « Ces hommes ». Avec une exclamation, ces femmes, avec une exclamation, et à chaque fois avec un modèle, en fait, féminin ou masculin, du Coran, de la Sunna, où il est très intéressant de tirer des leçons par rapport à leur parcours de vie. Et là, j'ai choisi d'évoquer un prophète auquel je pensais depuis longtemps pour ce genre de série d'épisodes, et c'est le prophète Haroun alayhi salam. J'ai trouvé que c'était vraiment le moment opportun d'en parler, parce que justement, on a quitté Surat Qasas il n'y a pas très longtemps dans notre série Raconte-moi le Qasas. Donc j'aime bien parce que du coup, cette série, elle crée un précédent, elle crée une base pour beaucoup de choses. Et comme maintenant, tu as la ref, eh bien tu vas voir que chaque fois que tu auras des passages sur le prophète Moussa alayhi salam ou sa famille, eh bien tu vas voir que tu vas aller plus vite, tu vas comprendre encore plus de choses. Et comme tu as de bonnes bases, mashallah, sur les enseignements de Moussa alayhi salam, eh bien tu vas voir, ça va t'ouvrir un champ. Et j'avais fait exprès de ne pas étaler trop les informations, en tout cas la méditation sur le prophète Haroun alayhi salam, parce que je voulais justement lui consacrer un épisode et zoomer un peu sur ce grand personnage, mashallah. Alors Haroun alayhi salam, c'est un prophète qui la plupart du temps est mentionné en binôme avec son frère, le prophète Moussa alayhi salam. Haroun, qui c'est? Eh bien c'est le frère biologique, le grand frère d'environ un an, selon les narrations, de Moussa alayhi salam. Donc il avait un an de plus que lui. D'après de nombreuses narrations aussi, il était né l'année d'avant, donc l'année où les garçons étaient épargnés. Donc comme tu sais, Pharaon ordonnait que chaque année, une année sur deux plutôt, les garçons nouveau-nés soient égorgés. Parce que justement, il craignait que parmi eux, selon un rêve qu'il aurait fait et qu'on lui aurait interprété, eh bien il y aurait quelqu'un parmi Banu Israël qui allait plus tard le renverser. Donc pour pallier à ça, pour anticiper, eh bien il avait décidé de tous les tuer, d'abord tous les ans. Puis après, ses conseillers lui ont quand même mis la puce à l'oreille en lui disant « Mais si tu continues de tous les tuer, qui va travailler en fait ? Qui va travailler ? Qui va bâtir ce que tu as à bâtir ? Qui va bosser en fait ? Qui sera la main d'œuvre ?» Donc il a décidé d'épargner une année sur deux les garçons nouveau-nés. Et donc pas de bol pour lui parce que Haroun alayhi salam, un prophète plus tard, est né l'année où les bébés étaient épargnés. Et Moussa alayhi salam est né l'année d'après, mais a été épargné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les deux prophètes, si tu regardes bien, les deux ont été épargnés. L'un par Pharaon sans s'en rendre compte, bi'iznillah bien sûr, mais Pharaon l'a épargné sans s'en rendre compte. Et le deuxième a été épargné par Allah subhanahu wa ta'ala sous les yeux de Pharaon et il n'a rien pu y faire. Donc c'est vraiment un destin commun pour ces deux prophètes. Et donc l'enfance de Haroun alayhi salam n'est pas mentionnée dans le Coran. Quand il est mentionné dans le Coran, c'est quasi toujours dans sa mission aux côtés de son petit frère Moussa alayhi salam. Et comment est-ce qu'il est devenu prophète, Haroun alayhi salam ? Allah l'a bien sûr choisi, hein. Il était vraiment programmé pour être prophète. Il a été créé pour le rôle de prophète, comme les autres prophètes. C'était écrit. Mais la manière dont il est devenu prophète était assez spéciale, parce que c'est le seul prophète qui l'est devenu à la demande d'un être humain, à la demande d'un autre prophète. Et ça fait de lui quand même quelqu'un de assez particulier. Et rappelle-toi, comme on l'a évoqué dans la série « Raconte-moi Al-Qasas », quand Moussa alayhi salam a reçu d'Allah la nouvelle de sa prophétie, quand il était monté dans cette montagne-là, et qu'il a rencontré Allah oralement, en tout cas il lui a parlé oralement, eh bien, quand Allah lui a donné la nouvelle de sa prophétie, puis de sa mission auprès de Pharaon, Moussa alayhi salam a fait une doua très poignante en fait. Et on l'a dans le Coran, dans la ayah du jour, on l'a. Dans Surat Qasas aussi, on a une version aussi similaire. Surat Qasas et Surat Taha se complètent très bien pour ce passage-là, où Moussa alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui assigner comme soutien son frère Haroun alayhi salam. Comme on a évoqué ça déjà dans Surat Qasas, je te laisse revoir cet épisode si tu as besoin. Là, je vais aborder Surat Taha qui en parle parce que ça va te compléter justement ce qu'on a vu par rapport à Surat Qasas. Et là, c'est un peu plus complet dans un sens par rapport justement à sa demande. Et donc, il dit expressément à Allah, après avoir proféré la fameuse doua qui est très connue lorsqu'on doit faire un discours, lorsqu'on veut faciliter des choses, lorsqu'on fait un examen, lorsqu'on s'inquiète pour quelque chose. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. C'est une doua à apprendre par cœur. Ça, c'est faut même pas hésiter. Donc c'est la doua qui va commencer de la ayah 25 à la ayah 28, à apprendre par cœur, surat Taha. Et donc après ça, il dit directement Allah, donne-moi un soutien en fait. Il demande donne-moi un soutien infaillible parmi ma famille, d'accord ? Donc il dit « Waj'alli wazir min ahli ». Wazir, c'est vraiment un soutien, un assistant, un auxiliaire, quelqu'un en fait en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance, comme il dit. Et là, il dit « Haroun ahi ». Donc Haroun, mon frère. Là, il faut imaginer quand il dit ça, qu'il s'exclame limite. C'est comme s'il disait « Donne-moi quelqu'un de ma famille en qui je peux avoir confiance ». Et là, il dit « Haroun, mon frère ». C'est comme si tout d'un coup, en fait, il réalisait, il se rappelait immédiatement, parce que là, la scène se passe très vite. Encore une fois, toujours dans la métaphore avec Surat Qasas, c'est très visuel ce genre de scène. Et Allah nous aide avec ça à travers une ponctuation, une intonation aussi dans Tajwid. Peu de mots finalement. Haroun ahi, Haroun mon frère. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de Haroun virgule mon frère. Comme pour dire mais oui, Haroun. Donc là, il faut que tu imagines, c'est comme s'il était en train de dire « Donne-moi un assistant dans ma famille. » Tout de suite, il pense « Ah, Haroun, mon frère. » Tu vois, c'est comme ça que tu dois le lire dans ta tête. Genre, c'est comme s'il dit « Mais il est parfait pour ce rôle. Haroun, mon frère. » D'accord ? Et il dit « Ushdoudebihi azri. » D'accord ? Donc, azri, ça veut dire, donc il dit « Renforce-le. » renforce moi, comment dire, par son biais en fait, il faut que tu me renforces, d'accord ? Et là il dit Azri. Azri c'est, quand on parle de Azri, Azr, pardon, c'est le dos, c'est la force, c'est le renfort. Donc il utilise la métaphore du dos, du renfort, en gros, quelqu'un qui assure mes arrières, quelqu'un sur qui je peux me reposer. Parce que le dos aussi, quand on parle de dos, c'est à la fois la force, parce qu'on porte quelque chose sur le dos. C'est ça qui est beau. Il a utilisé un très beau mot. Parce que c'est un mot qui peut être compris de manière très complète. Quand on parle du dos, le dos, c'est ce qui... Il y a la colonne vertébrale, c'est ce qui maintient, en fait. C'est ce qui maintient tout. Il parle du dos à la fois pour dire quelqu'un sur qui je vais pouvoir me reposer. Parce qu'on est d'accord que quand on veut se reposer, on s'adosse contre quelque chose. Par exemple, tu t'adosses contre un tronc d'arbre si tu es assis en pleine nature. Tu t'adosses sur un siège. Tu t'adosses sur un dossier. Donc, s'adosser pour maintenir le dos. Et on parle aussi de bien se positionner. Une bonne posture, c'est aussi un dos qui est maintenu correctement et bien droit. Donc là, c'est dans le sens où il va venir me fortifier. Et le dos, c'est aussi cette partie du corps qui est tellement robuste qu'on muscle régulièrement, en fait, qu'on sollicite régulièrement malgré nous et qu'on utilise pour porter des charges lourdes, pour porter des choses. Quand on porte quelqu'un sur le dos, on porte un sac à dos, on porte des vêtements aussi sur le dos. En fait, le dos, c'est à la fois quelque chose qu'on utilise pour se reposer sur quelqu'un ou quelque chose, et c'est aussi une partie du corps qu'on utilise aussi pour renforcer le reste. Je soutiens ce sac à dos. Je soutiens mon enfant quand il monte sur mon dos. Donc tu vois, c'est dans les deux sens. C'est comme s'il disait, je veux Haroun comme renfort pour me renforcer. Et je sais que moi aussi, avec lui, je serai fort et je saurai dans les bons moments et dans tous les moments, en fait, le renforcer lui aussi. Je vais le porter et il va me porter. Regarde comment c'est fort. Donc là, c'est machallah, c'est vraiment le brotherhood, là, le frère... Mon frère d'armes, quoi, un peu. J'aime beaucoup leur complicité, j'aime beaucoup ce grand respect, cette considération qu'ils ont. Et ça se lit juste avec une aya ou deux. On comprend, en fait, tout de suite l'histoire. Et donc, c'est comme s'il disait « Fais de lui mon partenaire, mon associé dans ma mission que voici. » Et il rajoute « Afin que nous te glorifions beaucoup, que nous t'invoquions beaucoup. Certes, tu es très clairvoyant sur nous. » Donc, c'est comme pour dire avec Haroun alayhi salam, bien sûr, Moussa alayhi salam, même seul, il va glorifier Allah. D'accord, il dit Kaynu sabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Donc, il parle de tasbih et il parle de dhikr. Comme pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr que même s'il était seul, il le ferait. Mais il dit ici que la présence de Haroun, le soutien de Haroun alayhi salam va faire que on va être encore plus en fait, assidu, dans le sens, ça va être décuplé. Avec sa force, avec ma force, il va me décharger l'esprit et moralement sur des choses où lui excelle. Et donc, dans ce cas, je n'aurai pas cette préoccupation-là et Allah, je vais te glorifier plus, ma mission sera mieux faite. Et tout ce que je te demande là aussi, c'est uniquement pour ces raisons-là. Et de la même façon, lui aussi pourra avoir moi-même comme backup. Donc, comme pour dire que il faut être bien, il faut être bien accompagné aussi pour mieux adorer Allah. Il est en train de préciser aussi que s'il se permet de faire cette demande-là, c'est uniquement pour satisfaire encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement par peur, c'est pas seulement parce qu'il veut un soutien, ça va plus loin que ça. Il est en train de parler des conséquences sur le long terme, sur le court, moyen, long terme. Et ça, c'est très important comme rappel pour nous aussi, que quand on s'associe à quelqu'un, lorsqu'on prend en fait l'assistance de quelqu'un, pour qui on fait ça à la base? Est-ce pour satisfaire quelque chose? Est-ce pour une renommée? Est-ce pour être plus efficace? Ou est-ce pour, à la fin, un dessein plus grand, un dessein Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Moussa alayhi salam, il appelle solennellement Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir Haroun alayhi salam à ses côtés, qu'il ait un rôle à part entière dans sa tâche devant Pharaon. De nos jours, parce que c'est très important, là tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous renvoient à nous de nos jours, certaines personnes peuvent penser, à tort que le modèle de réussite, c'est la personne qui se dit forte parce qu'elle bosse seule, parce qu'elle s'est construite seule, parce qu'elle a besoin de personnes. En gros, le cavalier solitaire. Des personnes qui aiment être se vanter ou qui aiment en tout cas montrer le mérite qu'elles ont du fait qu'elles se sont fait seules. En gros, moi, je me suis fait seule, je me suis construite seule. C'est pas forcément un mérite. Hein. Et ça, on le voit ici. J'ai envie de dire à ces gens, eh bien, il faut leur présenter Moussa alayhi salam, qui, je rappelle, est une figure masculine par définition. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, comme tu le sais, quand il a rencontré Moussa alayhi salam lors du voyage nocturne, donc al-Mi'raj, il l'a rencontré et il l'a décrit comme étant quelqu'un de géant et fort. Tawal, il a dit qu'il était tawal, très grand, et pour sa robustesse aussi. Moussa alayhi salam avait, pour rappel aussi, la force, la carrure, la force physique de 10 hommes costauds. Pas un, pas 10 hommes seulement. 10 hommes déjà costauds. Il avait, Allah lui avait donné toute cette force en lui. Donc quand il faisait quelque chose où il frappait, où il, voilà, il agissait, il corrigeait quelque chose avec la main, on sait que c'est pas le petit truc, d'accord ? C'est Moussa alayhi salam dont on parle. Et donc physiquement, on peut dire que c'est un homme, vraiment homme, un vrai homme, d'accord ? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rapporté ses conversations privées avec Moussa alayhi salam. Et dans ces conversations, dans le Coran, Moussa alayhi salam, on voit qu'il demande de l'aide. Il demande de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah de lui accorder une aide. Il aurait pu directement dire à Allah de le fortifier, de le rendre très fort, de lui dire « Rends-moi capable en fait de répondre à Pharaon. Rends-moi capable. » Il aurait pu faire ça. Il a fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. À plusieurs reprises, dans le Coran, on a des célèbres doigts de Moussa alayhi salam. Il aurait pu dire ça et Allah l'aurait exaucé. Mais à travers son intelligence, il nous enseigne aussi, et c'est peut-être aussi pour ça en fait qu'il a demandé de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous enseigne une grande leçon. Pour rappel, Moussa alayhi salam, c'est vraiment un prophète qui avait une très grande connaissance de l'être humain, du comportement humain. Si tu veux apprendre le comportement humain, les spécificités de l'être humain, les subtilités, il faut regarder comment Moussa alayhi salam traite avec l'être humain. On apprend beaucoup de choses. C'était le cas dans Sourate Qasas, dans d'autres passages aussi du Coran qu'on a pu aborder dans le podcast, et des informations aussi que tu as lues toi-même dans tes lectures personnelles. Moussa alayhi salam a une grande connaissance de l'être humain et il faut en profiter. Et donc Moussa alayhi salam demande de l'aide. Et il dit sans tabou à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a peur. Et il lui dit ça même 2 fois. On l'a vu dans Sourate Qasas. Il dit qu'il a peur de se faire tuer parce que justement il avait tué un homme. Et il dit qu'il a peur d'être traité de menteur. D'accord ? Donc il a pas honte en fait de dire à Allah et de se confier sur son émotion. Et bien qu'Allah le rassure sur ces 2 peurs-là, Moussa alayhi salam demande quand même un renfort humain. Et il choisit spécifiquement son frère Haroun alayhi salam. Il sait exactement de qui il a besoin. Moi, c'est ça qui m'a impressionné dans ce passage, c'est que je me dis, mais parce que là, il ne pouvait pas préparer la conversation. Il a été pris de court. Il a été surpris. Il n'était pas allé sur cette montagne-là pour rencontrer Allah, pour parler avec Allah. Il était parti chercher du feu pour sa famille à la base. D'accord ? Pour les réchauffer, leur donner de la lumière, un peu d'éclairage, on va dire. Les réchauffer et aussi trouver son chemin. D'accord ? Donc, il sait exactement ce dont il a besoin. Il a demandé du tac au tac, en fait. C'est vraiment une idée qu'il a eue tout de suite, sans hésitation. Et comme j'ai dit, il ne pouvait pas préparer ses réponses. Et donc, c'est la preuve qu'il connaissait très bien son frère, qu'il avait confiance en lui aussi depuis toujours, et qu'il était un fin observateur et un connaisseur des qualités de son grand frère. Donc, il n'a pas hésité une minute sur la nature du soutien qu'il souhaitait, en fait, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a agi rapidement. On apprend de Moussa alayhi salam ici une compétence qui est très très importante, qui est très intelligente. C'est le fait de, quand on a une mission, il faut savoir analyser la mission, il faut savoir ce qu'on a comme capacité, nous, et donc nos limites. Il faut pouvoir identifier les éléments et les compétences qui nous manquent pour mener à bien la mission. Il faut trouver là où les bonnes personnes pour assurer sur ses compétences et se mettre tous ensemble au boulot. Ça, c'est les qualités d'un vrai leader, en fait. Demander de l'aide, du renfort, exprimer une émotion telle que la peur, comme Moussa alayhi salam l'a fait, c'est pas en contradiction avec l'idée de leadership ou avec l'idée du courage, c'est encore moins en contradiction avec la masculinité, on en parle beaucoup aujourd'hui, avec la virilité, notamment celle d'un homme bien sûr. Bien au contraire, c'est un signe de maturité. Si on confie nos craintes à la bonne personne, si on recrute là où les bonnes personnes pour assurer les tâches en question, c'est ça la maturité. Et c'est ça le vrai leader. C'est celui qui sait reconnaître. Dans Surat Al-Qasas, que tu connais plutôt bien maintenant, Mashallah, on a une information supplémentaire par rapport à la demande de Moussa alayhi salam. Ça, on l'a évoqué. Il dit, et Haroun, mon frère, donc ça vient compléter ce qu'on avait dit, c'est pour ça que je te le rappelle ici, parce que ça peut être bien de mettre les deux ensemble. Il dit, et Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Il, Allah, dit, nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos ayat, nos miracles. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. On apprend la raison ici, dans Surat Al-Qasas, on apprend la raison pour laquelle c'est Haroun que Moussa alayhi salam souhaite à ses côtés dans sa mission. D'accord ? Et pourquoi ? Pourquoi en fait il veut Haroun spécifiquement ? C'est comme s'il disait « j'ai besoin de quelqu'un que je connais, de quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui ne va pas me trahir, d'accord ? Quelqu'un de ma famille, et ce quelqu'un c'est Haroun. Il se trouve que Haroun aussi est plus éloquent que moi. » Donc là on a une information qu'on n'avait pas par exemple dans Surat Taha. Dans Surat Taha il y a vraiment le détail de sa doua, il y a le détail de son besoin d'avoir un soutien. Et dans Surat Qasas, on a la raison, en tout cas une des raisons importantes pour lesquelles il se tourne spécifiquement vers Haroun, son frère, alayhi salam. Il dit qu'il est plus éloquent que lui. C'est comme s'il disait, il parle plus clairement que moi. Il va m'aider dans ma communication. Il va m'aider à me faire comprendre. D'accord ? J'ai peur que ces gens-là ne veuillent pas m'écouter, qu'ils me traitent de menteur, comme ils ont eu l'habitude de le faire avant, en fait. La preuve, ils n'ont même pas cherché à m'auditionner. Quand j'ai commis ce que j'ai commis, quand on m'a accusé d'avoir tué comme ça un homme, comme s'il n'y avait pas eu de raison, ils n'ont pas cherché à m'auditionner avant que je ne fuis l'Égypte, il y a des années. Ils sont restés sur la version d'un seul parti, ils n'ont pas écouté les deux parties. Donc comment ils vont me croire après toutes ces années ? Quand une vérité, en tout cas on la garde comme ça, c'est très, pendant des années, c'est difficile de la re-questionner. Donc Haroun alayhi salam, mon frère, va pouvoir en fait me servir d'appui. Quand en fait on va quelque part et on risque de ne pas être entendu parce que justement la personne nous traite de menteur, bien sûr à tort, c'est toujours utile d'avoir quelqu'un de neutre, ou en tout cas de notre côté, qui peut venir appuyer la véracité de nos propos, qui peut venir témoigner et qui peut venir nous soutenir. Et en plus de ça, Haroun alayhi salam maîtrisait très bien, non seulement il maîtrisait bien la langue officielle de l'Égypte, il savait bien parler aussi au peuple parce qu'il maîtrisait encore mieux que Moussa alayhi salam l'hébreu, en tout cas qui était parlé dans Banu Israël. Il y a vécu le plus longtemps. Comme je t'avais dit, Moussa alayhi salam, il a voyagé. Il est resté des années en dehors d'Égypte. Donc il a appris un nouveau dialecte. Il était auprès d'un autre peuple qui a d'autres traditions, une autre culture. Donc on perd toujours un petit peu. C'est comme quand tu vas au bled pendant longtemps, tu restes des mois par exemple. Quand tu reviens, on dirait dans les premiers jours, tu ne sais même plus parler français. Et pareil, quand on vient juste d'arriver au bled, quand on n'avait pas l'habitude, en tout cas tous les jours régulièrement, de parler notre langue maternelle, ou en tout cas la partie profonde sans rajouter du français toutes les deux phrases, eh bien, tu prends du temps un petit peu à t'adapter, et après tu vas parler tous les jours ta langue maternelle, et quand tu reviens, on dirait le français, on dirait que tu ne le comprenais pas au début. D'accord ? Les mots ne reviennent pas tout de suite. Tu es un peu dans le bain encore de ton pays d'origine, ton pays natal plutôt, natal ou ton... Bref, ton bled, tout simplement. Donc tu vois, là ça fait le même effet. Moussa alayhi salam, il revient après des années, il a construit une famille, il a travaillé, il a pas seulement travaillé, il a été en contact avec d'autres personnes, avec des commerçants, avec la vie, les gens de la ville, avec son beau-père, etc. Donc c'est une autre vie. Donc là il revient et il retrouve Haroun alayhi salam qui lui n'a pas quitté les lieux. Il connaît les habitudes, il connaît les codes, etc. Donc il est dans la place quoi. Donc il peut lui servir de guide, de soutien, d'assistant. Et donc, à l'issue de tout ça, juste à cette demande-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé, sans condition. Il le dit, donc, ta demande est exaucée, ya Moussa. Ça aussi, j'aime trop comment Allah subhanahu wa ta'ala prend soin du prophète Moussa alayhi salam. Il n'a pas cherché à questionner sa peur, à lui dire mais il faut pas avoir peur, ou à lui dire c'est pas légitime, ou à lui dire mais comment tu oses aussi me demander, parce que dans un autre passage, il demande carrément envoie Haroun à ma place. Là, c'est comme s'il lui disait, il aurait pu, pardon, plutôt lui dire pourquoi, en fait, je t'ai dit d'y aller toi. Pourquoi est-ce que tu me demandes quelqu'un d'autre? Et même si cette personne y va avec toi, pourquoi tu n'y vas pas tout seul? Allah n'a pas questionné. En fait, il a vraiment respecté les émotions présentes de son prophète à ce moment-là. Pour le rassurer, pour qu'il mène à mieux, à bien sa mission, eh bien, il a accédé à sa demande. Parce qu'en plus de ça, c'était déjà dans le plan. C'est ça qui est beau. Donc Moussa alayhi salam a été le levier pour que Haroun alayhi salam devienne prophète, mais Haroun alayhi salam était déjà programmé pour l'être. Ça, c'est une subtilité du destin. Et donc il lui dit, on va te donner le support nécessaire et on va vous accorder à tous les deux sultanan fala yasiluna ilaykuma. On va vous donner à tous les deux une grande autorité, tous les deux. Vous allez tous les deux devenir prophètes à compter d'aujourd'hui pour la même mission. Pour la même mission. Et ils ne pourront plus vous atteindre désormais, parce que j'ai posé mon veto. On apprend par cette conversation que Haroun alayhi salam est sans aucun doute mature, intelligent, pieux et éloquent, et bien d'autres choses. Les narrations disent de lui qu'il était vraiment ce qu'on pourrait dire aujourd'hui un speaker. Il était éloquent en public, il savait parler aux foules, il savait les convaincre, et ça c'est un atout majeur. Il y a une morale ici pour nous, jusqu'ici en tout cas, très intéressante. C'est que vouloir faire de ce monde un monde meilleur ne repose pas tant sur ce dont on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, mais ça repose surtout, aussi et surtout, sur notre capacité à comprendre, à identifier, à reconnaître les talents singuliers qu'ont les autres et se garder d'être arrogant et de refuser d'admettre les talents des autres, de refuser d'admettre que l'autre est bon dans un domaine où moi, je ne le suis pas. C'est là tout l'art et la manière d'un leader, de quelqu'un qui veut le bien pour la collectivité. Quand on veut le bien pour la collectivité, on ne pense pas à son ego et on se dit on n'est pas en train de satisfaire son nafs en fait. Quand tu trouves des gens qui ont un talent et qui peuvent le mettre à contribution de la collectivité, il faut savoir identifier leur talent, admettre, reconnaître, les valoriser, valoriser ces personnes-là, les complimenter, les féliciter et les recruter aussi. Il faudrait quand même y penser. Et à la fin, on doit comprendre que on n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. On est dans la même équipe, dans le chemin, dans le droit chemin, Al-Huda. D'accord, ça aussi, c'est une notion que tu connais bien maintenant. Al-Huda, la guidée. C'est la même team, la même équipe. C'est la team du Qur'an. C'est celle qui veut rendre Allah fier. C'est la team de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on n'a pas de temps à perdre dans les enfantillages, dans les comparaisons, dans les coups bas, les messes basses, l'orgueil, les préjugés, les insécurités et compagnie. Vraiment, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais on choisit plutôt de se reconnaître mutuellement dans nos forces. On se facilite entre nous, suivant nos forces aussi, pour pousser la mission à son maximum, à ses pleines capacités. C'est ça l'intelligence et c'est ça un leader. Moussa alayhi salam, encore une fois, tu vois, il n'a pas fini de nous apprendre la vie et il a très vite identifié son frère comme étant compétent dans sa mission. Il a une compétence, des compétences à contribution, alors il n'a pas hésité à dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le veut à côté de lui. Et il a demandé à son Rabb directement, au chef des chefs, directement. Donc, il est allé droit au but. Et tu as vu, Haroun alayhi salam est plus âgé que Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam est donc son petit frère. Mais on ne sent jamais, à aucun passage où Haroun alayhi salam est mentionné dans le Coran, on ne le sent jamais menacé par son petit frère. On ne sent jamais qu'il se sent moins important que lui. Pourtant, c'est Moussa alayhi salam qui a le lead, c'est Moussa alayhi salam qui est à la tête de la mission, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne les ordres. c'est lui qui va parler à Allah à chaque fois. Toujours en haut d'une montagne, la première fois pour recevoir sa mission, une autre fois pour recevoir At-Tawrah, la Torah, Haroun alayhi salam a compris que chacun a sa contribution. Lui et son frère travaillent tous les deux au service d'Allah, tous les deux au service de la vérité, tous les deux au service de la communauté. Il a compris qu'il n'y avait pas de compétition. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup, c'est dans Surat A'raf, où Allah nous parle d'une autre tâche que Haroun alayhi salam a menée et qu'il a menée à bien. En fait, il avait été mandaté par Moussa alayhi salam pour assurer la direction du peuple pendant que Moussa alayhi salam est parti au rendez-vous fixé par Allah subhanahu wa ta'ala en vue de recevoir les commandements donc de la Torah. Et donc ce passage-là dans Surat A'raf, donc c'est cette ayah, et nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Rabb se termina au bout de 40 nuits. Et Moussa dit à son frère, « Remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. » Donc Moussa alayhi salam s'est absenté pendant 40 nuits, et pendant son absence, il a demandé à Haroun alayhi salam d'être, donc de guider le peuple, de rester surtout, de rester disponible, de rester vigilant, de ne surtout pas laisser son peuple en fait, de ne pas l'abandonner et voilà, de ne pas suivre aussi les corrupteurs. Parce qu'il savait qu'il allait en avoir. Pendant son absence, malgré l'assiduité de Haroun alayhi salam, le peuple commet quand même le shirk. Et ils ont fabriqué donc un veau d'or, ils se sont mis à adorer, qu'ils ont pris comme idole, sur recommandation des semeurs de troubles et corrupteurs parmi Banu Israël justement. Et quand Moussa alayhi salam redescend de la montagne et voit cette scène d'horreur, tout simplement d'horreur, eh bien Surat A'raf nous raconte sa réaction à Moussa alayhi salam, c'est dans la Ayah 150. Et écoute bien, donc ici on apprend dans cette Ayah qui est la suivante, « Et lorsque Moussa retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit, « Vous avez très mal agi pendant mon absence. » Avez-vous voulu hâter le commandement de votre robe ? Il jeta alors les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. Je ne sais pas si tu imagines la scène. Moussa alayhi salam, on sait que quand il vit ses émotions, il les vit sans faire semblant. Donc par colère. Et d'abord il est triste en fait, il est hyper triste. Sa tristesse se traduit en colère. Sa colère le pousse à jeter carrément les tablettes en fait, les tablettes où il y a la Torah, les commandements d'Allah, il est tellement fâché qu'il les jette sur ce veau d'or et détruit le veau d'or en même temps. Donc t'imagines, et Allah restitue la scène sans le blâmer. Tu verras pas dans les ayahs suivantes qui dit à Moussa, pourquoi t'as jeté les tablettes ? Moi je te donne des tablettes, toi tu les jettes. C'est la parole d'Allah qui est dedans. Moussa alayhi salam les a jetées, il était tellement en colère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'ici, on n'a pas à juger Moussa alayhi salam sur son comportement. N'importe qui ici, on en avait parlé dans Surat Qasas, n'importe qui ici, dans cette scène-là, parmi nous, à la place de Moussa alayhi salam, je pense que ce n'est pas seulement jeter des tablettes qu'on va faire. On va tous les condamner en fait. On va tous les jeter en prison, ou on va tous on va appliquer la peine de mort, je crois. Tellement c'est énervant. Il s'absente pendant 40 nuits pour le bien de son peuple, pour aller chercher les commandements. Il leur dit qu'il va revenir. Il leur laisse un leader pour les aider, pour les accompagner. Et ils arrivent quand même à faire ça. Un peuple qui a reçu plein de miracles, plein de signes d'Allah, plein de faveurs, qui a été sauvé du pire, en fait, du pire tyran. Normalement, à vie, en fait, ils se tiennent à carreau. À vie, ils adorent Allah. À vie, ils font attention. Mais l'être humain, et ce peuple-là en particulier, qui a reçu le plus de faveurs, et pourtant a été le plus ingrat. Donc il y a de quoi être énervé. Donc Moussa alayhi salam est très énervé. Ça, c'est une chose. Et ensuite, dans son énervement, il descend, et là, il va vers son frère, et il le tire, il tire sa tête. Et tu vas voir dans la réponse de Haroun alayhi salam, qu'il n'a pas seulement tiré la tête, il tirait la tête et il a tiré sa barbe avec. Et je ne sais pas si tu imagines la scène. Là aussi, c'est visuel. Il faut que tu imagines ça visuellement. Là, j'ai même pas besoin de te faire de dessin. Allah veut que tu imagines la scène. Donc il précise, sinon il aurait dit il l'a tiré. Ou il aurait dit il l'a attrapé. Mais il précise, il l'a tiré par la tête. Et on précise aussi dans les paroles de Haroun alayhi salam qui dit ne me tire pas par la tête, ne me tire pas par la barbe. Ça, c'est visuel. Et moi, ce qui m'inquiète quand j'entends cette scène-là, c'est oups, Moussa alayhi salam avec sa force. Comment Haroun il va résister à ça? On connaît la force de Moussa alayhi salam. Et en plus, il est en colère. Et on sait ce que ça donne quand il est en colère. Bien sûr, ce qui est mis en lumière ici, c'est pas le fait qu'il a voulu faire du mal à son frère, pas du tout. Ça transparaît l'état émotionnel dans lequel il est. Ça transparaît la gravité de ce qui se passe. Bien sûr, Haroun alayhi salam est aussi quelqu'un de fort, de robuste, et il a su en fait contenir son frère. D'ailleurs, c'est ça que je voulais mettre en lumière. Regarde la sagesse de Haroun alayhi salam. Et ça, tu le verras dans un passage qui ressemble beaucoup. C'est pour ça que c'est très important d'étudier les passages entre eux, même s'ils ont des similarités, des similitudes. Eh bien, il y a toujours une nuance intéressante. Et donc, dans Surat Taha, de la ayah 92 à 94, donc Allah dit dans le sens, « Alors, Moussa dit, qu'est-ce qui t'a empêché, Haroun, ô Haroun, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre ?» As-tu donc désobéi à mon commandement ? Haroun dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas suivi mes ordres. Là, on va bien analyser ici parce que c'est hyper intéressant cette scène-là. Et ça nous donne une belle information sur justement cette compétence supplémentaire qu'on découvre de Haroun alayhi salam. Haroun alayhi salam, faut que tu retiennes qu'il a géré la situation avec beaucoup de tact et de sagesse. Je parle de la situation pendant que Moussa alayhi salam n'était pas là. Il a évité carrément une guerre civile. Le veau d'or était un moindre mal en attendant le retour de son frère avec les commandements et la marche à suivre. Sans la sagesse et le calme de Haroun alayhi salam, les choses auraient été pires. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le peuple, en fait, était parti en cacahuète, carrément. Et donc, ils étaient déterminés à faire ce qu'ils ont à faire. Ils ont menacé Haroun alayhi salam de ça. Il y avait quand même des divisions qui commençaient à se faire, des idées, etc. Et Haroun alayhi salam a décidé de ne pas, c'est pas de ne pas les confronter, mais justement, il a décidé d'agir pour la collectivité. Ce qui était en train de commencer à se faire, c'est une guerre civile, donc une guerre interne. Et ils sont beaucoup. Moussa alayhi salam n'est pas encore revenu. Ils n'ont pas encore reçu les commandements. Et c'est ça qu'ils attendaient justement pour avoir des règles de vie, pour savoir comment agir. Il faut se dire que c'est un peuple qui est comme un peu novice, comme des enfants nouveau-nés. Ils ont vécu dans la tyrannie pendant des années, des siècles, des générations. Ils ont perdu les repères. Maintenant, ils goûtent à une certaine liberté. Et en même temps, pas tout à fait, parce qu'ils n'ont pas encore de terre pour eux. Donc, ils sont dans une phase pas évidente, d'accord ? C'est vraiment pas évident. Ils doivent réapprendre à vivre normalement. Ils doivent réapprendre les basiques. Moussa, alayhi salam, est parti pour ça. 40 nuits, ça passe plutôt vite quand même, par rapport à des siècles de vie. Eh bien, ils n'ont même pas pu attendre ces 40 nuits-là. Et donc, Haroun, alayhi salam, pour éviter et pour choisir la solution de moindre mal, en attendant que son frère arrive et reprenne le relais, et justement qu'il ait aussi l'insufflation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur quoi faire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait la scène qui se passe. D'ailleurs, pendant, tu verras ça dans Surat Araf, pendant que Moussa alayhi salam est en train d'arriver vers Allah, Allah lui demande en fait, lui pose des questions dans cette surat-là et aussi dans Surat Taha. Il lui demande en fait comment t'as laissé ton peuple et tout. Et Moussa alayhi salam, très content, très fier de dire « Je suis venu à toi, je suis venu pour les commandements. » Et Allah lui annonce en avance « Ton peuple est en train de faire n'importe quoi quelque part. » D'accord ? Donc Moussa alayhi salam, il est déjà un peu prévenu qu'il va revenir et il va trouver des épreuves. Haroun alayhi salam, voilà, pour la faire vraiment courte, il a vraiment bien géré la situation. Et pour cause, quand on voit la réaction immédiate que Moussa alayhi salam a à la vue de l'égarement de son peuple quand il redescend de cette montagne, on comprend que Haroun alayhi salam était la meilleure personne des deux pour gérer en fait ce qui s'est passé pendant l'absence de Moussa alayhi salam. Haroun est plus calme, il a une meilleure maîtrise de ses émotions. Attention, ça ne veut pas dire que Moussa alayhi salam n'en a pas. Quand on dit de quelqu'un qu'il a quelque chose de meilleur ou qu'il le fait mieux, ça ne veut pas dire que l'autre ne le fait pas bien, ça veut juste dire que celui-là le fait très bien. D'accord ? Ça, c'est très important. On a dit qu'on ne les comparait pas. Et quand je dis on ne les compare pas, on n'est pas en train de dire l'un est bien, l'autre n'est pas bien. Loin de nous, cette idée. Mais dans le Coran, Moussa alayhi salam parle lui-même de ça. Haroun a des capacités supérieures aux miennes dans son éloquence, d'accord, par exemple. Donc là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé le meilleur dans chaque pôle de décision. Ici, Haroun alayhi salam, c'était l'homme de la situation. Il a une très belle maîtrise de ses émotions. Il est plus éloquent que Moussa alayhi salam, comme lui-même l'a dit. Et regarde d'ailleurs comment il réussit à calmer son petit frère qui est en rage et qui est en colère, à juste titre, qui le tire avec force, avec la force qu'on lui connaît en fait. Il est en train de tirer son frère. Qu'est-ce qu'il dit ? Regarde comment il appelle son frère. Il dit « Oh fils de ma mère, Iyabna Umma, oh fils de ma mère ». Si tu as remarqué, il n'a pas dit « Oh prophète d'Allah », il n'a pas dit « Oh mon frère ». Il n'a pas dit « Oh Moussa ». Il n'a rien dit de tout ça. Il a dit « Oh fils de ma mère ». C'est volontaire. Haroun alayhi salam est éloquent. Il sait parler. Il maîtrise le verbe. Et il sait parler en fonction de l'auditoire qu'il a. Il a analysé très rapidement son frère, la force avec laquelle il le tire, la colère avec laquelle il a. Il est là, il l'a vu jeter les tablettes. Il a compris que là, ce n'est pas le moment de dire « Ah, un, deux, trois, non, calme-toi, non ». Il a commencé par juste la manière dont il l'a appelé, il appelle au calme. Il a directement appelé Moussa en disant « Ô fils de ma mère » parce qu'il les lie eux deux de plus fort, de très fort. Leur mère, les liens de la matrice, les liens du même endroit où ils ont été tous les deux, l'utérus de leur mère, le berceau de la rahma, c'était le moyen le plus efficace d'aider son frère à revenir à un état de calme. Parce que si tu regardes bien, c'est très profond ce qu'il dit là, mais si tu regardes bien, la mère de Moussa alayhi salam était leur sécurité à tous les deux. Elle les a allaités tous les deux. Elle a usé de tawakkul, de force, pour sauver Moussa alayhi salam de la mort. Il n'y a que son évocation, l'évocation de leur mère, qui pouvait calmer la colère de Moussa alayhi salam à ce moment-là. Et Haroun l'a saisie avec brio. Voilà une démonstration de l'éloquence de Haroun alayhi salam. J'ai envie de dire, mais qui fait ça? Qui arriverait à faire ça? On comprend, là tu vois le tafsir de Moussa alayhi salam qui dit « Wa akhi Haroun huwa afsahu minni lisanan » Donc, et mon frère Haroun est plus éloquent que moi par sa langue. Il est plus éloquent que moi dans sa langue, dans son verbe. Le tafsir, il est là. Il est dans ce passage-là. C'est un passage du Coran qui vient en expliquer un autre. Là, si tu cherchais une démonstration, une explication, un exemple, une scène. Vraiment, là, on vient de te donner la vidéo de Moussa alayhi salam et de Haroun alayhi salam. Donc Haroun alayhi salam en pleine action. En pleine action de désamorcement. Il a très, très bien agi, très bien géré la situation. Ça, c'est Haroun alayhi salam. Et donc, ils ont travaillé main dans la main jusqu'au bout. Moussa alayhi salam a reconnu dès le départ de sa mission l'apport indéniable de son frère Haroun alayhi salam. Et Haroun alayhi salam a épaulé son jeune frère sans jamais se sentir faible à ses côtés, sans jamais se dire « mais c'est mon petit frère ». Au contraire, il l'a accepté dès le départ comme leader. Il a priorisé le bien de la communauté. Il a prouvé à maintes reprises que son frère a eu raison de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de lui un prophète avec lui. Il a été, Haroun alayhi salam, l'équilibre dont Moussa avait besoin, alayhi salam, sur le plan moral, spirituel et émotionnel. Il a été son meilleur bras droit. Et ensemble, ils ont fait des choses remarquables pour l'humanité. La preuve, en 2024, on est encore en train d'en parler et on ne cessera de le faire. Allah a honoré Haroun alayhi salam en mentionnant son nom à plusieurs reprises dans le Coran. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve de magnifique. Loin d'être dans l'ombre, Haroun alayhi salam n'était pas un homme de l'ombre. Je pense à un passage qui m'a toujours marqué, c'est celle de la prosternation des magiciens dans la cour de Pharaon. Les magiciens de Pharaon, je te fais un résumé, donc ils ont lancé des cordes qui se sont transformées visuellement, on va dire, en serpents. Moussa alayhi salam, on sait que il avait ce miracle de jeter son bâton qui se transforme en gros serpent. Et donc ce gros serpent de Moussa alayhi salam a avalé les cordes. Là où publiquement les gens ont dû se dire, c'est deux magies, d'accord ? Il y a des magiciens, et en face, il y a deux autres magiciens, Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. D'ailleurs, c'est comme ça que Pharaon les évoque. Il dit, ce sont... Donc il dit, ce sont deux magiciens qui veulent juste vous faire partir de votre pays, d'accord ? Donc c'est pas vrai. Donc du coup, une foule qui assiste à cette scène-là, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle se dit juste, ok, c'est une magie juste qui est plus forte que l'autre. Sauf que l'un, c'est la magie. En partie, c'est la magie. Mais en face, Moussa alayhi salam et Moussa alayhi salam et Haroun, c'est pas de la magie ce qu'ils font. Et là où on comprend en fait cette scène-là, c'est quand les magiciens, ils se prosternent immédiatement, sans... En fait, c'était immédiat. Quand ils ont vu la scène, ils sont tout de suite prosternés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont magiciens. Ils maîtrisent la magie. Ce sont les plus grands magiciens qui étaient réunis ici. Pharaon, il a vraiment appelé les meilleurs, il a annoncé, il a fait... Voilà, il a fait un i'alan, un appel à candidature. Vraiment, ce jour-là, il était planifié. C'est-à-dire, ils se sont donné rendez-vous. Moussa alayhi salam, il est venu le premier jour et Pharaon lui a donné rendez-vous à un autre jour pour le confronter. D'accord ? Donc, il y a eu une autre scène. Et là, les magiciens sont prosternés tout de suite. Parce que quand tu es expert dans un domaine, tu connais les limites de ce domaine. Donc, quand tu vois plus fort que toi, tu sais le reconnaître. Là où quelqu'un qui n'est pas du domaine, il ne saura pas. C'est-à-dire, tout le monde est pareil. Moi, par exemple, je ne m'y connais pas en voiture. Je ne m'y connais pas en football, par exemple. Je ne m'y connais pas dans certaines matières. Je ne saurais pas faire la différence entre quelqu'un qui est très, 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 très fort et entre quelqu'un qui est très fort. Toi, tu me pourras me dire, mais non, lui, il a ça de plus que l'autre. Alors que pour moi, ils sont tous forts, c'est tout. Mais là, c'est pareil. La foule, le public, quand ils voient ça, ils se disent, bah, c'est juste tous des magiciens, en fait. C'est juste que, bah voilà, Moussa alayhi salam, il a eu plus de bol. Il est plus compétent dans sa magie. Sauf que les magiciens, ils ont tout de suite compris, ça, c'est pas de la magie. Ça, c'est pas de la magie. On connaît les limites de la magie. Et là, ça casse les limites. Ça tue les limites de la magie. Ce n'est pas de la magie. Donc, c'était immédiat. Ils ont tout de suite, en expert, reconnu les codes. Et ils se sont dit, ça, ça peut être que Rabbul Alamin. Ce que Moussa alayhi salam et son frère disent depuis tout à l'heure en da'wah, etc. En fait, c'est la vérité, la preuve. Donc, visuellement, ces miracles visuels, en fait, qu'Allah a donné à Moussa alayhi salam, c'était en vue de ça, en fait. Et Pharaon a perdu complètement la face, en fait. Justement, ceux qui étaient censés être un dalil, être un plaidoyer pour lui, devant la foule, contre Moussa alayhi salam et son frère Haroun alayhi salam, se retrouvent finalement à être ceux qui salissent sa réputation et qui le ridiculisent devant tout le monde. C'est pour ça qu'en fait, il a décidé de les tuer, il a décidé de les crucifier, là. Il les a menacés en disant je vais couper vos membres en fait en opposé. C'est-à-dire, je vais vous tuer et je vais faire une mort lente, je vais couper vos bras, votre bras gauche avec votre jambe droite et voilà, en croix, là, comme ça. Mais qui fait ça ? Franchement, on a l'impression qu'ils s'ennuient vraiment. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondent ? C'est pas notre problème. Fais ce que tu veux. On a déjà cru. Ça y est, c'est trop tard. Et pourquoi je te parle de ce passage ? Parce que ces magiciens, dans Surat Taha, à la ayah 70, Allah rapporte qu'ils disent « Donc les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent « Nous avons foi en le robe de Haroun et Moussa. » Donc ici, « فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَ فَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى » Et dans un autre passage, dans Surat Shu'ara, c'est à peu près le même verset, la même ayah, sauf que c'est inversé. Ils disent donc « Rabbi Moussa wa Haroun ». Donc dans le premier passage, Surat Taha, les magiciens disent « Le Rabb de Haroun et de Moussa ». Donc Haroun est cité en premier, alors que dans Surat Shu'ara, c'est Moussa qui est cité en premier, alayhi salam. Si tu regardes bien, ce qui est important de retenir, c'est qu'ils sont cités ensemble par les magiciens. Les magiciens, ils ne les dissocient pas. Ils les mettent ensemble. D'accord ? Haroun et Moussa. Moussa et Haroun. C'est eux deux. Donc Allah, vraiment, quand il dit « Je vous envoie tous les deux », c'était jusqu'au bout. C'est-à-dire que même aux yeux des gens, les gens, ils les ont perçus comme une team. Ils n'ont même pas réussi, en fait, à se dire « C'est lui qui est le plus fort. C'est lui qui est le moins fort. C'est lui qui est le lead. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui est compétent dans ça. » Non. En fait, Allah a fait d'eux un blocus. devant les gens, ils apparaissaient comme exactement la douara de Moussa alayhi salam, Wazir, exactement comme la douara de Moussa alayhi salam, Azr, Azri, Ushdud bihi Azri. Chacun était un dos pour l'autre. Chacun était vraiment une muraille pour l'autre. Et extérieurement, c'est ce que les gens ont vu. D'accord ? Les magiciens, c'est ce qu'ils ont vu. Et donc, ils sont cités à chaque fois ensemble. Et ici, les magiciens les citent ensemble, alors que c'est Moussa alayhi salam qui s'adresse à Pharaon et à sa cour. On n'entend pas finalement Haroun alayhi salam s'exprimer. Ils arrivent ensemble, mais à chaque fois, c'est Moussa alayhi salam qui parle. À chaque fois, on entend Qala, Qala. Donc, Qala, il dit, en parlant de Moussa alayhi salam, et Pharaon dit, il dit, il dit, il dit, il dit. C'est vraiment une conversation entre eux deux. Haroun alayhi salam est là. On pourrait presque se dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas ? C'est de lui qu'on parlait quand on parlait d'éloquence. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de mentionner le Rabb en qui il faut croire, les magiciens y citent les deux. C'est pour montrer en fait que Haroun était pleinement dans sa mission. Et Haroun est mentionné en premier dans Surat Taha, parce que dans cette Surat Taha, Haroun alayhi salam est énormément mis en lumière. On a beaucoup de détails. Bah, c'est les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. On a beaucoup de détails sur la mission de Haroun alayhi salam et sur le choix apporté sur Haroun alayhi salam de Moussa. D'ailleurs, le passage dans Surat Shu'ara où c'est inversé, c'est justement parce que, bah déjà, c'est pour mettre en lumière encore plus dans Surat Taha la position de Haroun dans cette mission-là. Donc c'était une grande faveur qu'Allah lui donne en le mettant en lumière. Et aussi parce que Surat Shu'ara parle moins justement du choix de Haroun alayhi salam comme prophète. C'est pas la sourate où Allah en parle. Quand c'est une sourate où Allah en parle en détail, eh bien même là dans la bouche des magiciens, il fait de sorte qu'ils disent Rabbi Haroun wa Moussa. Donc vraiment un très beau passage. Eh bien on arrive à la fin de l'épisode. J'aimerais conclure en disant qu'on a tous besoin d'un Haroun dans notre vie. Et un conseil, si tu trouves cette personne, tiens-la avec tes cinq mains. Là, je pense à une expression Wolof, Aksafukiloro, d'accord ? Pour les Wolof qui passent par ici, c'est une langue que j'apprécie beaucoup parce que ça fait partie de mes langues maternelles. C'est la langue parlée officiellement au Sénégal. Et en fait, j'aime beaucoup cette expression parce qu'ils disent qu'il faut tenir la personne avec tes cinq mains. Et des fois, ils disent même tes 10 mains, d'accord ? Comme pour dire, ne lâche pas cette personne, c'est une perle rare. C'est une perle rare que tu dois regarder comme un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et jamais comme quelqu'un que tu dois concurrencer ou quelqu'un sur qui que tu dois marcher ou elle te marche dessus. Non, vous êtes une team, d'accord ? Qu'Allah nous permette à nous et à nos enfants de toujours puiser dans les sagesses coraniques de nos vrais super-héros, ces prophètes et les membres de leur famille qui sont pieux. Amin ya rabbal alamin.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.